Alors, on est encore là pour un petit moment. Et alors, on a été pioché dans les... Dans les auteurs qui sont encore vivants, parce qu'il y en a beaucoup qui sont allés dormir, il y en a qu'on espérait avoir et qui ont abandonné ou qui nous ont dit « Ah non, ça se termine à 11h et à 11h05, je serai sous la couette ». Chose qu'on peut tout à fait comprendre. Mais voilà, Colline, par exemple, est encore vivante. Et on a aussi à table avec nous Olivier Filippono. On a déjà eu l'occasion de parler avec toi, Olivier, pour The Uchikuchi, mais là, on va plutôt revenir sur votre expérience. On va commencer avec toi, Colline. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur toi. On a un petit peu ton blog sous les yeux. On voit un petit peu ce que tu fais. Mais du coup, on va te demander un peu de te situer, dire d'où tu viens, quel type de travail tu fais.
D'accord. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai fait longtemps des études d'art. J'ai un peu essayé de faire de la BD. Je fais du graphisme, etc. Et il y a quelques années, j'ai vraiment viré de bord. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire autre chose, en l'occurrence de la cuisine. Et pour moi maintenant, en fait, j'aimerais vraiment réussir à revenir à l'illustration, à la narration, mais comme quelque chose de vraiment transversal, parce que j'ai fini par comprendre que c'est pas exclusivement ça que je voulais faire. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'aime autant venir sur ce type d'événement, c'est que je suis assez appelée par la contrainte collective, la contrainte de temps. Enfin, j'aime vraiment beaucoup l'aspect performance, en fait, dans ce qu'on peut faire maintenant. Or que c'est vrai que toute seule, enfin d'être ma seule contrainte, ça me réussit pas vraiment en fait. Et du coup, c'est pour ça que maintenant je vois vraiment ma pratique créatrice, que ce soit du graphisme ou vraiment juste de l'illustration, comme quelque chose qui englobe en fait beaucoup d'autres. Enfin, j'aime vraiment beaucoup l'idée de que ça s'apprête avec d'autres gens sous d'autres modalités. Enfin là, c'est vrai qu'on n'a pas trop profité du fait qu'il y ait les danseurs. Je pensais qu'il y aurait une contrainte très liée en fait, et en fait on a bon travaillé sous des contraintes un peu similaires, mais chacun de notre côté. Et c'est vrai que ça fait partie d'une envie artistique que j'ai maintenant. Alors que quand j'ai quitté les Beaux-Arts, etc., enfin, j'ai fait ça en fait. J'ai fait art appliqué, j'ai fait art plastique, j'ai fait une licence pro de graphisme et j'ai fini par les Beaux-Arts à Épinal. Et enfin, à la suite de ça, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je fasse autre chose parce que c'était probablement pas suffisant. Donc pour le coup, quelque chose de très différent. Et du coup, ça m'a permis de faire une pause, en fait, faire un vrai break de ce que j'avais envie de faire ou pas en dessin, si j'avais envie d'en faire quelque chose ou pas professionnellement, en fait, parce qu'à un moment donné, c'est une vraie question. Et là, je suis en train justement d'y revenir. C'est encore que des idées, mais en tout cas, voilà. Ce type d'événement, j'aurais toujours grand plaisir à participer, en fait.
Comment tu t'es connecté à l'asso Shifumi ? Je sais qu'il y a des auteurs du coin, par exemple, mais...
Moi, en fait, c'est Bibi, donc un des sérigraphes, qui m'a mis en relation avec June. C'était il y a 2 ans. On a été à BD à Bastia. On était bénévoles avec le drosophile. On a fait des ateliers de sérigraphie avec les enfants. Et donc Shifumi était là, on a fait une boucle comme on a faite hier, sauf que là c'était vraiment un tout petit corpus avec 4 cases, quelque chose en une demi-heure, mais bon bref, on a passé une semaine à festoyer gaiement et voir des super expos ensemble, donc voilà, ça crée des liens. Et l'an dernier, j'ai participé déjà aux 24 heures qu'on avait faites à l'entrepôt à Besançon.
D'accord. Alors je vois sur ton Tumblr, on a sous les yeux, donc il s'appelle ishtartar2.tumblr.com pour les gens qui ont envie de... qui seraient sur Internet, qui ont envie de voir aussi. Tu as plutôt un travail, on dirait, pictural, un peu... je tourne aussi vers mes collègues, hein, parce qu'ils n'ont pas vu ça. Fort travaillé, plutôt peinture et tout ça. Et bon, on sait que dans le cadre des 24 heures, on n'a pas forcément le temps de mettre en place ce genre de pratique. Comment tu installes, du coup, ton dessin? Quel genre d'outils tu as utilisé aujourd'hui et hier pour produire?
C'est vrai que pour le coup, les 24 heures, pour moi, c'est un peu un labo, justement, comme je n'ai pas l'habitude de faire de la BD et que je n'ai pas vraiment appris de manière très poussée à en faire, comme c'est le cas de plein de gens ici. Je n'ai pas les automatismes pour faire ça bien, comme il faut tout de suite. Et du coup, là, j'ai travaillé sur le premier opus qu'on a fait de 8 pages. J'ai travaillé au stylo noir, je fais plutôt de la ligne, bref,
ce que je fais. Avec un dessin relativement réaliste, une façon de capturer comme ça des séquences. On a des personnages avec des vêtements qui sont très très réalistes et qui sont vraiment très photographique, en fait. Il y a vraiment un dessin assez virtuose, je dirais, quand même.
Merci.
Qui est assez impressionnant. Je l'ai remarqué assez vite quand je suis entré dans la salle hier. Et puis, j'ai revu des planches, là, il y a une heure, en disant, tiens, c'est quand même du sacré bon boulot. Ça ressemble un peu à de la bande dessinée, de romans photos ou des choses qu'on peut retrouver dans les fumetti italiens, des choses comme ça, avec très, très cadré, quoi. Un personnage à l'avant-plan qui dit, oh, ma pauvre, à une fille à l'arrière-plan, campée, etc. Je cite de mémoire, c'était pas ma pauvre, il y avait été employé une expression plus très française comme ça. Enfin, voilà, donc des choses qui donnent tout de suite quelque chose de cinématographique, à la fois dans le découpage, assez intéressant.
C'est vrai, je pense que je suis un peu de la vieille école, enfin, entre guillemets, mais j'ai jamais été dans le dessin très stylisé, c'est vrai, parce que j'aime le dessin de manière assez naturelle. D'ailleurs, j'ai du mal à concevoir que j'ai un style, en fait, j'ai jamais eu envie, en fait, d'aller vraiment dans une patte très, très stylisée. Je sais pas, en fait, si c'est un choix, si c'est quelque chose qui est comme ça, qui nous échoue et qui nous suit tout le temps, en fait, je me rends pas compte. Mais là, du coup, par exemple, l'an dernier, j'avais travaillé à l'encre. Et j'avais souvenir que c'est vrai que je peux travailler rapidement à l'encre, par exemple, mais sur un temps donné, enfin, on a toujours tendance à surestimer nos possibilités sur ce laps de temps-là. Et j'avais un peu galéré, je me souviens l'an dernier. Du coup, là, j'ai essayé de faire un peu au plus simple, on va dire, pour essayer de faire quelque chose qui soit homogène, en fait. Ce qui m'avait quand même pas mal déçu par rapport à l'an dernier, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à être content au début, et puis fatalement, au bout de 5, 6, 12 planches, on se dit j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai mal aux mains, j'ai mal au dos. Du coup, voilà, c'était l'idée un peu de garder quelque chose d'homogène, cette édition-là.
Qu'est-ce que raconte ton histoire de 8 planches, par exemple ?
L'histoire de 8 planches, alors donc, ce que tu n'as peut-être pas dit, s'il l'a dit, on avait donc des personnages, chacun dessinait un personnage au début, et on se le transmettait ensuite au hasard. Et moi, j'avais un espèce de personnage qui avait des grosses rangers, une pelle, et à la place d'une tête, un espèce de cosmos, enfin, un truc très bizarre, ça aurait pu être une explosion, ça, enfin bref, un truc complètement déstructuré. Et moi, ce que j'ai gardé de la vidéo qu'on a vue, c'était ce côté vraiment destructeur, en fait, de l'humain. Et notamment, il doit y avoir quelques petites séquences de la guerre au Vietnam. Du coup, je sais pas, je suis partie là-dessus. Et du coup, l'idée, c'est que... donc, ça se passe en pleine guerre du Vietnam, au fin fond de la jungle. Et là, on réalise qu'il y a donc, bref, une tuerie entre une poignée de soldats américains et des Vietcong. Et donc, bref, quelque chose de très réaliste, un peu lugubre et austère, quoi. Et en fait, là-dessus arrive cette espèce de personnage que j'ai imaginé comme un fossoyeur, quelque chose d'un peu onirique, qui arrive là au milieu, qui a pas de visage et on ne sait pas ce qu'il fait. Enfin bref, il transbahute les corps, donc bref. Et un des soldats, en fait, est juste grièvement blessé, pas tout à fait mort, il se réveille. Et là, il réalise... je suis en train de spoiler complètement le truc. C'est pas grave. Et en fait, il réalise que cette espèce de fossoyeur très bizarre, juste, il entrepose des corps dans des fosses comme ça, mais sans un but vraiment humain, humanisé. Enfin, bref, c'est bizarre. Et le fossoyeur d'essayer d'expliquer avec ses mots à lui que c'est plus possible à gérer, que lui... en gros, ce que je voulais un peu véhiculer, c'est que c'était un personnage qui appartient à un équilibre naturel. En gros, je creuse des trous parce que les choses meurent, je les mets dedans, ça repousse sous une autre forme, et c'est le cycle naturel, en fait. Et là, en gros, juste, il y a un cycle complètement dénaturalisé parce qu'il y a beaucoup trop de morts et beaucoup trop pour en faire des trous appropriés. Donc voilà, du coup, c'est un fossoyeur qui est très triste.
Il essaye d'enterrer vivant le soldat, en plus.
Pas tout à fait. Bon, c'est peut-être des incohérences narratives, hein, ça... mais non, on sent qu'il n'a pas du tout ni une intention mauvaise, ni pas mauvaise. Donc ça fait partie de ces espèces de choses qui évoluent. Enfin, je pense que, je ne sais pas si vous voyez la ligne de front de l'Arsenet, mais qui se passe, c'est l'histoire de Van Gogh. Enfin, ça se passe pendant la guerre de 14-18. Et en fait, Van Gogh est envoyé au front pour peindre la guerre. Et en fait, il retrouve au milieu du no man's land une petite fille qui est, je sais pas, la reine des obus, je crois que ça s'appelle. Et c'est un espèce de personnage complètement onirique et fictif comme ça, qui a juste pas de, enfin, qui a un libre arbitre, mais qui a pas de parti pris. Enfin, je pense que j'ai vraiment été marquée par ce personnage il doit y avoir une influence de ça. Voilà.
D'accord, très chouette. On a hâte de lire tout ça. On va s'écouter peut-être un petit peu de musique maintenant. Alors voilà, maintenant j'ai perdu ma référence, mais je vais la retrouver très très vite pour vous dire qu'est-ce qu'on va écouter. On vous descend des choses de Bruxelles, c'est le label Lexidisc. Et alors, le morceau, c'est Girl Seeker et ça s'appelle Lonely. Alors maintenant, on va parler un petit peu avec Olivier Philipponneau. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on t'a reçu. Enfin, ça fait déjà un petit moment déjà. C'était au montant l'air. Hein, ça date.
Un an ou deux.
Ouais, peut-être même plus. Toi, tu es actif chez Ziuchikuchi, une maison d'édition dont on parle assez régulièrement. Ton travail, c'est donc on a Détective Rollmops. Et puis tu disais plus récemment la véridique aventure d'un email qui est chez Polystyrène et Ziuchikuchi en fait.
Oui,
c'est ça,
la première coédition qu'on a fait.
D'accord.
Avec eux.
Et alors c'est marrant parce que tu nous disais hors antenne que donc évidemment tu viens de participer à ces 24 heures et en fait ton récit était connecté à celui de Colin avec qui on vient de discuter.
Oui, tout à fait. Le mien précédait celui de Colin. Et suivez celui de Neufafi. Voilà.
D'accord. Alors, ouais, on est un peu curieux. Parle-nous aussi à ton tour de cette expérience. On sait que chaque auteur vit un peu les choses de différentes manières. On sait que, voilà, Colin, comme elle nous disait, c'est une manière de se reconnecter à la bande dessinée. Toi, on peut considérer que tu es quand même dedans tout le temps. Et donc, c'est quoi l'enjeu pour toi quand tu te lances dans une aventure des 24 heures comme ça?
Du coup, serait qu'on j'ai une pratique quand même journalière de la BD, mais serait que là, du coup, ça casse quand même les habitudes. On est obligé d'aller beaucoup plus vite. Donc, c'est vrai qu'on n'utilise pas la même technique. Là, je vais pas graver sur bois comme Détective Rollmops ou travailler à la plume comme je fais d'habitude. Et du coup, ça débloque des choses. Ça va faire la cinquième fois que je fais les 24 heures. Et du coup, je trouve ça à chaque fois une expérience très riche. Je trouve des nouvelles choses. Enfin, on est obligé de toute façon de trouver des solutions et de faire ça aussi en groupe aussi. Ici à la Saline d'Arc et Sonance, on est dans un lieu exceptionnel. On se retrouve aussi à plusieurs. Donc, il y a toute une cohésion. Enfin, il y a une énergie qui voilà. Qu'on n'a pas autrement, je trouve.
Tu es t'es presque un peu un habitué non, des événements de Shifumi. C'est quoi ton rapport avec cet asso?
Avec Uchikuchi, on avait été invités à Pierre Feuille Ciseaux 2 et 3 pour animer des ateliers de gravure sur bois. Et donc j'avais animé avec d'autres membres d'Uchikuchi des ateliers pendant ces deux Pierre Feuille Ciseaux. Donc là aussi, c'est un grand plaisir de pouvoir revenir sur le lieu où c'était une expérience très assez folle et riche de pouvoir croiser plein d'auteurs autour de Loubapo quand ça s'était passé. Et ça rejoint voilà, le fait de travailler sous contrainte comme les 24 heures, c'est des moments forts où dans la vie d'auteur. Enfin, en tout cas, après, c'est des choses qu'on retrouve après dans tous les travaux, dans tous les livres. Enfin, voilà.
Tu peux un peu nous parler du boulot que tu as fait là ces dernières heures?
Alors, ces dernières heures, sur la première, la deuxième phase, donc les 8 premières pages, j'ai fait un... Moi, je me suis plus inspiré du côté astronomie, du volcan. Et c'est toute une histoire un peu mystique. Enfin, comme j'ai repris pas mal d'éléments de la vidéo, où il y avait des extraits de Méliès, Jodorowsky, etc. Et c'est dans la lignée finalement des deux précédentes 24 heures que j'ai faites, où il y avait le voyage touristique, puis le voyage avec des collectionneurs de champignons. Et donc là, c'est deux vulcanologues qui arrivent sur une planète qui est entièrement enneigée, avec des bonhommes de neige bizarres, et donc ils vont explorer cette planète. Donc j'ai démarré, voilà, c'est mes 8 premières pages comme ça. Et puis la troisième phase, ça a été plus difficile parce que du coup, il fallait vraiment lier deux récits d'autres auteurs. Celui de Fafé, elle avait fait des collages de mots où il y avait un certain sens, mais c'était très bon. Enfin, il n'y avait pas un récit très formé. Et, Et contrairement à Colline, où c'était très réaliste, avec où ça parlait de soldats au Vietnam, du coup, c'était pas du tout évident de raccorder les deux. Et j'avoue, j'ai bloqué. Enfin, j'ai avancé. Enfin, j'ai fait mes premières planches, puis au bout de 2 heures, j'ai bloqué. Donc, je suis allé me coucher, j'ai dormi quelques heures, et puis je suis revenu tout frais.
Ça allait mieux.
Et voilà, avec un regard plus neuf, ça a été mieux. Mais du coup, c'était. Enfin, c'est bien. Du coup, les 24 heures, cette nouvelle contrainte, ça m'a confronté à quelque chose finalement auquel j'étais pas habitué.
Est-ce qu'il y a une difficulté à raccorder ? Parce que moi, j'ai vu ça, on a fait un tout petit mini 24 heures avec Maxime, et je me suis dit, oulala,
et
Johanna qui nous a fait des soldats, et on n'est pas allé jusqu'où, on a fait les deux premières phases, c'est-à-dire qu'on a créé le personnage, et ensuite, où il planche sur base d'un personnage d'un autre, et on s'est arrêté avant le moment, parce qu'on devait dormir et tout ça, et qu'on n'était pas prévu qu'on soit là pour ça, on a pas relancé la troisième phase, il n'y a que Maxime qui l'a fait seul comme une espèce de brut, il a la jeunesse pour lui, et je me suis dit que la grosse difficulté c'était de raccorder des univers graphiques très très différents, et dans ton cas celui de Colline qui est très réaliste, et puis le tien, et puis encore un troisième, ça, j'imagine que c'est à ce niveau-là que s'est créé le blocage.
C'était pas forcément là, enfin si, bien sûr je suis pas habitué à dessiner des soldats réalistes au Vietnam. Par rapport à mes petits personnages bizarres comme dans Rollmop, c'est très très différent, mais en fait le raccord se fait assez facilement parce que grâce à la vidéo, il y avait beaucoup d'images, il y a beaucoup de réminiscences dans tous les récits qui ne sont pas forcément voulues d'ailleurs par les auteurs, mais finalement, on a toujours des choses qui ont ponctué nos différents récits. Et d'ailleurs, je pense que ça formera vraiment un tout cohérent. Mais après, c'est vrai qu'on avait quand même 12 pages à ajouter entre les deux et on ne pouvait pas faire un simple raccord. Il faut amener des nouvelles choses dans le récit qu'on complète. Et moi, c'est plus sur ça que j'ai... Enfin, j'ai tout de suite trouvé le raccord, mais il était trop court, en fait, par rapport aux 12 pages. Et c'est plus trouver ce que j'allais raconter en plus, ce que j'allais apporter, en fait, à ça. Voilà. C'était... Parce que du coup, moi, sur le précédent récit, il y avait un personnage qui était blessé au ventre, avec un autre qui sort de son ventre, il partait dans un délire. Et finalement, dans celui de Colline, il y a un soldat qui est blessé aussi, lui aussi. Donc le raccord s'est fait très facilement. Ils étaient très bizarrement d'ailleurs, ils étaient dans la même position. Et je pense pas du tout que les auteurs aient voulu. Et voilà, mais finalement, c'est que la vidéo amène des similitudes, voilà, comme ça. Et moi, c'était plus voilà de trouver comment lier ça sur 12 pages. Quoi. C'était ça ma difficulté.
D'accord. Je me demande si ça, on l'a pas demandé à John. Est-ce que il a un petit peu gérer ça. Je ne sais pas s'il a fait un mélange
j'en ai
au hasard ou
avec
s'il
lui,
a un petit
si
peu
on en a parlé, parce que d'ailleurs, ils ont réduit, on n'a pas fait 24 pages au total, on n'en a fait que 20. Et je sais qu'au début, ça aurait dû être 16 pages qui raccordaient les deux. Ils ont trouvé ça trop long. Ils avaient réduit à 12. Donc ils avaient conscience, je pense, de ce problème-là.
Merci, Julie.
Oui, heureusement.
Eh ben, merci, Olivier. Est-ce que tu as une actualité
Là, je viens de terminer mon dernier livre jeunesse pour les éditions Mémo, Zébulon et la pluie, qui sortira en janvier. Et sinon, en bande dessinée, avec Renaud Farras, on a continué autour des aventures de détective Rollmops à créer des objets qui accompagnent l'exposition. Et en fait, le dernier, qui s'appelle Pyramide, qui reprend le principe du jeu triomino avec des cases en triangle et des ramifications de lecture, sera édité l'année prochaine, en fin d'année, par les éditions Polystyrène et Uchikuchi. Donc voilà, okay. Un petit peu les actualités.
Super. Merci Olivier. Merci. Bonne fin de ce magnifique week-end.
Mais merci. Vraiment super.
Alors entre-temps, il y a une nouvelle auteure qui nous a rejoint, qui a aussi fini... Tu as fini tes planches, ça y est ? Quand j'ai été te voir tout à l'heure, tu m'as dit, je ne sais pas, encore pas tout à fait fini.
Pas tout à fait, non. Il y a encore du noir à mettre dans certains endroits... Pas encore.
D'accord.
J'en ai pour peut-être encore un quart d'heure.
D'accord. Alors, on va te faire un petit peu parler de l'expérience, puis après, on te laissera remonter. Donc, tu t'appelles Mathilde Poncet. Alors, quand nous, on a eu la liste des auteurs, hein, on a essayé de trouver un peu des infos sur un peu tout le monde. Tu as un petit blogspot qui s'appelle Cacophonie visuelle. Et alors, on a des images d'un petit livre auto-édité que tu as fait. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton travail, de où tu en es dans ta vie artistique et tout ça, assez rapidement, si tu veux. Qui est Mathilde Poncet ?
Alors, moi, je suis encore étudiante aux Beaux-Arts de Metz, en cinquième année. Avant, j'ai fait les Beaux-Arts d'Épinal. Donc moi, je suis vraiment dans l'édition, l'auto-édition. J'ai fait pas mal de stages dans des ateliers de sérigraphie, de linogravure, gravure sur bois. J'ai entendu parler de Chifumi, justement, à un de mes stages chez Steve Seller, qui est à Baume-les-Dames, qui est à l'atelier Affiche-moi le camp, qui m'a parlé du coup de Chifumi. Ça fait 2 ans de ça. Et voilà, donc moi, je navigue un peu entre... l'auto-édition, j'essaie de faire mes propres livres, mes propres petites éditions. Je profite d'être encore à l'école pour faire des stages. Et en même temps, vraiment faire de la BD. Je commence un petit peu à essayer de démarcher des éditeurs. Et voilà, et faire des choses, réfléchir un peu sur la bande dessinée, le rapport à l'illustration, sur des nouvelles mises en page et des nouvelles façons de faire. Voilà, je profite de mes études pour vraiment tester, expérimenter le plus possible. Autour de l'édition, super. Et de l'illustration, et de la bande dessinée.
Comment tu as vécu un petit peu? Tu voulais dire quelque chose, Maxime?
Bon, juste, du coup, c'est cette expérimentation et tout qui t'a rapproché de Chifumi?
Oui, en fait, j'adore l'idée de Chifumi. Avec des amis, déjà, on s'amuse à se donner des petites contraintes, à créer des récits ensemble. Et là, être avec des auteurs que j'admire, pouvoir faire une bande dessinée tous ensemble, avec différentes contraintes. Enfin, moi, j'aime bien travailler un peu sous la contrainte, essayer de sortir un peu de ce que je fais d'habitude. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, ça fait plusieurs années que, du coup, je voulais participer à un Chifumi. À chaque fois, je pouvais pas. Enfin, j'avais des contretemps et pour participer, là, je leur ai envoyé un mail hyper long en leur disant j'adore ce que vous faites. J'avais super envie vraiment et je suis vraiment contente d'être là, quoi.
Ah, chouette.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience, comment tu as vécu la contrainte?
Alors, oui. Au début, du coup, ravie vraiment, enfin le paradis avec. Des gens dont j'adore le travail, comme Oriane Lassu, Renaud Vigouret et compagnie. Et moi, après, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de travailler la nuit comme ça. Enfin, c'était vraiment dur cette nuit. Moi, je suis allée me coucher à 4h du matin. J'ai dormi 3h. Je me suis levée à 7h pour continuer parce qu'à un moment, j'étais vraiment bloquée à 4h du matin. Je ne pouvais plus.
Bloqué par la fatigue ou par quelque chose?
Par la fatigue, vraiment. Ouais, j'étais très lente. J'arrivais plus. Et après, au niveau de l'expérience, comme disait Olivier, c'est super intéressant de tous se retrouver ensemble pour créer quelque chose tous ensemble. Il y a une espèce d'émulation. On va voir ce que font les autres. On a des avis. Moi, j'aime bien. Moi, souvent, je travaille seule et j'aime bien quand même me retrouver un peu avec des gens pour travailler. Et voilà.
Au niveau du dessin, sur ton blog, moi, j'ai pas vu... le petit livre dont tu parles, Zoo, il y a beaucoup de textes...
C'est ligne claire.
Ouais, ça donne pas beaucoup d'informations sur ton dessin. Est-ce que... Enfin, si, on en voit un petit peu. Effectivement, c'est plutôt ligne claire. Qu'est-ce que tu as dû mettre en place, là, ce week-end, au niveau graphique pour...
Alors, oui, en fait, il faudrait continuer un peu plus sur mon blog, parce que là, ça, c'est le fruit d'un workshop. C'est un peu pareil, là, je suis sortie un peu des sentiers battus de ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, je m'inspire plus de la sérigraphie et jouer avec les couleurs, les superpositions de couleurs, dans mes bandes dessinées. Et là, j'ai dû travailler en noir et blanc. D'habitude, mes mises en page, je les fais par ordinateur. Tout est bien calé. Donc là, c'était intéressant aussi de vraiment faire les planches d'un coup, avec gérer le texte et tout en noir et blanc avec différents effets de matière. Moi, du coup, c'était assez nouveau pour moi par rapport à ce que je fais d'habitude.
Tu as utilisé pas mal de pinceaux brossés comme ça, c'est assez élégant et tu as mis des remplissages et c'est une technique dans laquelle on ne peut pas se tromper puisque tu brosses avec de l'encre, c'est un peu séché, donc ce qui permet de donner des effets de matière, du gris et ce genre de choses. Mais le principe, c'est qu'une fois que c'est posé. Donc, est-ce que ça, tu as eu des moments de frayeur comme ça dans le boulot?
Après, là, j'ai appris, depuis 5 ans, puis je suis dans mes études, à essayer d'avoir vraiment confiance en moi. Et moi, ça ne marche pas quand je fais je vois, là, il y avait certains auteurs qui faisaient déjà je ne trouve plus mes mots, j'ai dormi 3 heures, qui dessinaient déjà une première fois, après qui repassaient dessus comme il faut. Et moi, ça ne marche vraiment pas quand je fais ça. Moi, c'est plus vraiment l'énergie, essayer de trouver direct le trait juste. Et du coup, le fait, oui, d'utiliser la brosse comme ça... à la peinture directement, vraiment sans réfléchir, j'essaie de me faire confiance en fait. C'est vraiment instinctif en fait.
Et tu as dû adapter ton dessin par rapport au récit que tu as récupéré, qui commençait en fait les quatre pages que tu as dû récupérer, qui commençait la deuxième partie de l'épreuve des 24 heures.
En fait, ce que je trouve intéressant aussi, puisque je voyais dans les autres Shifumi, c'est garder son dessin, mais en reprenant les personnages des autres. Voilà. Alors, on les change un peu. C'est vraiment intéressant de voir la transformation en reprenant des éléments dessinés par d'autres qu'on peut faire subir. Et je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de garder son dessin plutôt que d'essayer d'imiter ce que les autres ont fait avant.
T'as même repris la manière qu'il avait de raconter. Est-ce que tu utilises beaucoup de textes off, comme dans la bande dessinée qu'il avait?
Ouais. Bah après, c'est ça qui est bien de travailler en collectif, c'est que vraiment sa BD, elle m'a fait super rire. Et d'habitude, je fais pas trop des BD rigolotes. Et là, j'ai voulu garder son ton qui marche super bien, que j'adore. Essayer aussi du coup de tomber dans un registre comique. Contrairement, par exemple, aux 8 premières planches que j'ai faites, où c'était plus un récit cosmogonique avec une façon de parler plus mythique, en disant oui, c'est une histoire d'un grand œil qui est enfermé dans un volcan et qui veut s'échapper, qui veut retrouver sa liberté. Et là, du coup, le fait de repartir de planches de quelqu'un d'autre, eh ben, ça oblige à s'adapter. Et puis c'est ça qu'on vient chercher aussi à Shifumi, quoi, de changer, quoi, de trouver une nouvelle façon de faire.
Super, moi j'ai super hâte de lire tout ça.
Oui, c'est clair.
Cool. Eh ben, merci beaucoup Mathilde. Bon courage pour terminer.
Ouais.
Merci. De se remettre dedans encore pour un quart d'heure, ouais. Ça va peut-être être difficile.
Non, mais on tient le bon.
Mais c'est chouette d'être venu parler avec nous. Merci.
Merci beaucoup.
On va s'écouter un petit peu de musique. Alors toujours de la musique qui vient de Belgique. C'est le musicien. Joue sous le nom de Unchained et le morceau s'appelle Pedrosa.
Voilà, et pour terminer en beauté cette émission de radio, on reçoit sur le plateau, qui est une demi-table hexagonale, Caroline Grosjean et Fabien Amiot, qui sont très courageux puisqu'ils viennent de danser pendant 24 heures. Ils étaient les porteurs d'une partie hyper expérimentale que June avait promis. June le disait, il aime mixer et aller au-delà de la bande dessinée traditionnelle. Et là, il l'a prouvé encore une fois en essayant d'amener à l'intérieur de la bande dessinée un art qu'a priori on n'associerait pas, qui est la danse. Il y a quelques rares expériences de mixage entre danse et bande dessinée. On pense au Brutalisme, par exemple, de Frémok, mais en fait, il y en a très très peu d'autres. Et ici, associer ça avec quelque chose qui est les 24 heures de la bande dessinée était vraiment un pari assez risqué. Alors, il a invité comme ça ces personnes, Caroline et Fabien, qui eux-mêmes ont invité d'autres danseurs, je crois, et peut-être qu'ils vont nous raconter comment ça s'est passé un peu, comment June est allée vous trouver, comment vous avez trouvé June.
Ouais, bah alors pour le coup, c'est peut-être moi qui vais répondre à ça, parce qu'en fait, il se trouve que moi je suis membre de Shifumi depuis quelques années, et puis ça faisait un moment déjà qu'on se disait avec June qu'il y avait quelque chose à faire. Alors lui résume ça en disant que ce qu'on a en partage, c'est le geste. Et puis, on avait même envie d'aller encore un peu plus loin que ça, parce que quand même, c'est pas juste du dessin. Hein, la BD qu'on essaye de promouvoir chez Shifumi, c'est aussi le jeu avec les contraintes, le jeu de la création sous contraintes. Enfin. Et puis, pour le coup, ça s'est fait assez naturellement, parce que je suis aussi danseur, amateur. Et puis que j'ai pas mal eu l'occasion de danser avec Caroline, dont le boulot, comme par hasard, tourne beaucoup aussi autour de la contrainte pour créer de la danse.
Donc j'enchaîne. Mmh. Moi je connais bien Fabien, ça fait 5 ou 6 ans, j'ai une compagnie sur Besançon qui s'appelle Pièces Détachées, donc moi je suis chorégraphe et interprète. Et puis c'est vrai que toutes les pièces, qu'elles soient pour le plateau ou pour le in situ, sont vraiment très ancrées sur des contraintes, soit spatiales, scénographiques, mais aussi des contraintes plus de jeu, de transmission, de choses comme ça, parce qu'on a un projet qui s'appelle Partition, qu'on joue in situ, on utilise pour le coup la voix, le corps, et que c'est toujours les danseurs qui le font. Sur la région, la compagnie, voilà, elle a 6 ans, donc Fabien est danseur amateur. Et il se trouve que pendant 3 ans, j'ai mené un projet pour la scène nationale de Besançon qui a réuni une vingtaine de danseurs amateurs. Donc pour l'occasion, c'est vrai qu'il m'a fait rencontrer Shifumi en plusieurs apéro plutôt sympa, voilà, pour discuter, on s'est bien entendu, et voilà. Et mais moi, je fonctionne aussi beaucoup comme ça, c'est-à-dire sur la relation humaine et sur la rencontre, donc ça, bah, ça l'a fait. Donc on s'est dit, s'il y a les 24 heures de la BD, en fait, on est parti, vous aviez déjà un peu réfléchi entre auteurs, et moi, j'ai eu envie avec Fabien, on a vraiment piloté ça ensemble, de faire plutôt 24 heures de danse. Après tout, c'est un lieu exceptionnel, un format qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc c'était l'occasion vraiment de tester ça sur un temps très très long. Donc nous, on était là vraiment pour une expérience. Donc on a convié une quinzaine de danseurs amateurs et professionnels qu'on fréquente. Et 10 ont répondu présents. Voilà. Donc on était 10 pendant ces 24 heures.
Alors pour moi qui suis venu assister aux 30 dernières minutes de votre performance, j'étais un peu pris, puis après j'ai dormi et puis, honteusement, puis après je me suis dit, ah, les danseurs, il faut aller les voir. Et puis donc j'ai eu la chance d'assister vraiment à la fin. Pendant que j'étais assis, je suis rentré dans la pièce et j'ai directement été embrassé par il y avait 3 danseurs qui étaient très proches de la porte d'entrée. Et donc ils sont approchés à gestes lents vers moi, ils m'ont embrassé sur la joue. Et donc j'ai tendu la joue, puis allez, je suis assis m'asseoir. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'échappatoire, on ne pouvait pas être spectateur dans ceci, puisque en fait c'était une pièce totalement fermée. On pouvait éventuellement, depuis la salle des dessinateurs, voir par la fenêtre les danseurs bouger. Donc j'avais regardé quelques minutes la veille par les petites ouvertures, des gestes lents, etc. Et parfois un peu plus saccadés. Et donc là je suis rentré dans la pièce et j'étais dans l'espace. Et donc du coup, j'ai pu pendant cette demi-heure réfléchir à tout ce qui séparait dans les fêtes, plus que rapprochait la bande dessinée de la danse. Et c'était assez intéressant de voir comment les deux espaces exploité d'une manière tout à fait différente. En bande dessinée, l'espace de travail, c'est l'espace du papier, et le corps est plutôt oublié. L'expérience de la bande dessinée, c'est une expérience de l'oubli de son propre corps. On ne s'en souvient que quand il fait mal, alors que là, on avait quelque chose dans lequel le corps est le lieu même, et dans lequel la surface n'est pas la surface du papier, mais la surface totale de la salle, le volume même de la salle. Et donc, je ne pouvais pas être en tant que spectateur, j'étais en tant que corps parmi les autres corps, ce qui avait très bien été signifié par ce baiser d'entrée de jeu. Et donc du coup je me disais, tiens, c'est étrange, quel est l'endroit où ils peuvent eux-mêmes échapper, élaborer. On a parlé de Shifumi, du fait qu'il y avait des discussions entre auteurs, on pouvait aller voir ce que faisaient les autres, etc. Là c'est inclus, mais en même temps je me suis dit, à quel moment ils peuvent concerter quelque chose, et est-ce qu'il y a, certains danseurs sortaient parfois de la salle pour aller un peu se reposer et d'autres choses autour de ça, manger, pisser, ce genre de trucs. Mais en même temps tout l'espace lui tout entier est un espace de monstration, en même temps un espace de monstration paradoxalement relativement sans public, puisque j'imagine qu'il y a eu il n'y avait pas des centaines de personnes qui sont rentrées, etc. Donc c'était une expérience assez étrange pour moi de rentrer, puisque à la fois c'était étrange d'arriver et d'être totalement extérieur, à la fois d'être présent encore et à la fois d'assister à des gens qui se mouvaient, et je me disais, tiens, est-ce que le fait que moi j'arrive en tant que public, une personne unique, modifie le jeu, est-ce que d'un seul coup ça redevient une salle de monstration là où c'était une salle d'expérimentation. Et donc quand on fait un croquis préparatoire à une planche, on dessine sur une feuille séparée et puis éventuellement on la reprend à la table lumineuse où on s'en sert pour refaire un définitif. Ici, on est dans un espace dans lequel il n'y a pas de croquis, on était constamment dans la représentation. Et donc comment est-ce que du coup se gère cette notion de préparation, de concertation à l'intérieur d'un espace où on danse en continu ?
Alors, nous, on travaille que sur le présent, le temps présent, l'ici et maintenant, ça c'est clair. On a, en fait, avec Fabien et Magali, qui est danseuse professionnelle qui travaille avec moi depuis longtemps, on a beaucoup échangé, en fait, avant d'arriver ici, et on a établi une partition, un score, en fait, totalement inspiré des contraintes des auteurs.
D'une partie.
D'une partie, parce qu'on n'avait pas tout, voilà. Mais en tout cas, sur la construction du temps. Tenir pour nous 24 heures, il fallait aussi qu'on ait des contraintes un peu évolutives. Donc on a eu des contraintes de base, des contraintes collectives, d'écoute, de porosité, de construction de l'espace à la fois scénique, mais aussi l'espace sonore, parce qu'il n'y a pas que cet espace volume. Donc un corpus personnel aussi pour nous, des contraintes collectives, des contraintes de porosité avec les auteurs, puisque à deux instants, midi et 19h, en fonction de leur temps à eux, ils nous ont amené où on a été chercher des éléments en fait, de leur corpus et de leurs planches, qui nous ont servi aussi, nous, à nourrir en fait, l'univers de la performance et à faire évoluer nos consignes. Voilà.
Et qu'est-ce que vous... Voilà, c'était une expérience relativement nouvelle. Je pense que vous n'avez jamais fait ça ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que vous tirez d'abord, c'est une expérience qui doit être physiquement assez éprouvante, d'être en mouvement 24 heures. Il y avait comme les dessinateurs font des petits dessins, des petits personnages dans des grandes cases blanches, et vu que parfois certains se couchaient ou longeaient les murs de manière un peu lente, etc. Donc on trouve des négociations avec soi-même pour tenir le coup. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'est une expérience réussie dans le fond?
C'est dur à dire. Enfin, oui, c'est réussi parce que enfin, je crois qu'on y a pris un plaisir, enfin un plaisir qui est indéniable. Enfin, oui. Je crois qu'on a tous au moins 3-4 moments très forts dans les 24 heures.
Oui, moi-même, j'ai vu des moments assez intenses.
Voilà, après, c'est une expérience, donc pour moi, elle ne pouvait pas être ratée. C'est des gens qui ont été aussi un peu triés sur le volet, donc on a un vrai parcours aussi, ensemble, on se connaît assez bien quand même dans le mouvement. La gestion du temps, ça faisait partie aussi de nos consignes, parce qu'en effet, on n'improvise pas un score de 24 heures comme on le fait quand on a 3 minutes. Donc, en effet, cette gestion, et puis la danse, pour moi, c'est vraiment le corps, et c'est pas que le mouvement. C'est-à-dire le mouvement, aussi petit soit-il, est toujours existant, mais ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'on est restés tous en présence, en fait, et que même quand le corps est plus dans un geste très extraverti, en tout cas, on est toujours dans l'écoute, dans l'attention, dans la conscience de où on est, pourquoi on est là. Et ça, on l'a assez peu lâché. Donc non, il y a eu des beaux... Même en termes, après, de pure danse et scénographie, je pense que chacun a eu des beaux moments. Et ce serait même maintenant sympa de prendre le temps de les reconvoquer, parce qu'on en a aussi beaucoup oublié. Donc nous aussi, on a pris quelques traces, en fait. On va se faire un petit storyboard. Chaque danseur devait faire au moins 8 clichés pendant les 24 heures. Donc on doit avoir une centaine là, de photos. On va voir ce que ça donne. Et ce serait même sympa de retravailler peut-être certaines connexions. Ouais.
Alors il nous reste 3 minutes. Moi, ce que j'aimerais bien poser comme question, c'est une question qu'on a posée aussi à June tout à l'heure, c'est la question de la restitution dans le cadre du week-end. Il me semble qu'il y a encore une dernière petite étape, ça serait pas mal d'en parler, parce que les gens peuvent venir la voir en plus. Voilà, il vous reste 2 grosses minutes.
Donc c'est aujourd'hui à 16h30. On a fait un petit test en fait en arrivant, Fabien et moi, on est arrivés vendredi soir. On a fait vraiment un test très très court avec quelques auteurs qui ont eu envie de se prêter au jeu. On va voir combien il en reste aujourd'hui après les 24 heures aussi. En tout cas, on a testé 2 petits dispositifs où là pour le coup le temps va être très court et minuté, plutôt sur des 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, où danse et dessin vont être à la fois combinés et puis un autre dispositif où il y aura danse, puis dessin, puis danse. Et puis on va voir comment tout ça s'influence, se répond. Donc ça va être encore autre chose.
Oui. Ouais, les auteurs, vendredi soir, étaient encore un peu timides et un peu froids. Enfin, froids dans le sens musculaire et au niveau cérébral. Ils n'étaient pas encore tout à fait dans le bain. Et ça donnait déjà des choses qui avaient l'air quand même assez excitantes. Donc il y a moyen que ce soit très très chouette.
Oui, enfin, moi, c'est bien que j'ai été impressionné de ce qui est sorti dans le quart d'heure qu'on a pris pour essayer vendredi soir, quoi. Enfin, il y avait vraiment des choses qui donnaient envie de continuer, de se nourrir de ça. Enfin, vraiment, moi, j'ai hâte d'y être tout à l'heure, en fait.
Donc, pour les gens qui nous écoutent, venez jusqu'à la Saline Royale d'Arc-et-Senon, qui en plus se baignait dans le soleil, c'est absolument magnifique. Il y a encore des événements ce soir jusqu'à 19h. Donc venez voir ça, c'est maintenant ou jamais.
C'est ça, et puis c'est quand même très très rare d'avoir un rapport entre bande dessinée et danse, et avec des gens qui sont quand même assez impliqués et qui sont capables de faire de ça quelque chose, de prendre la contrainte, de la saisir à pleine main et d'en faire quelque chose d'investi. C'est rare.
Voilà, nous on remercie, merci aux danseurs, merci à tous les auteurs qui sont venus un peu partager l'expérience. Merci à la Sochi Fumi de nous avoir fait venir. Et puis merci à Radio Bip, parce que c'est très chouette de savoir qu'on est en direct.
Et, que ouais, et puis c'est une sacrée équipe de gens investis aussi.
Oui. bye bye.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Et ben voilà. Mais ouais, cool. C'est con parce qu'on part maintenant, donc on verra pas ça. Ça
Radio Grand Papier. Radio Grand Papier.